Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Thibaut Fouillet, qui est directeur scientifique de l'Institut d'études de stratégie et de défense à l'Université Lyon 3. Il est docteur en histoire, histoire des doctrines stratégiques à l'Université du Luxembourg, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, et il va nous parler de son livre « Géopolitique des petites puissances » qui est édité par les éditions La Découverte au mois de mai 2024. Bonjour Thibaut Fouillet.
Bonjour.
Thibaut Fouillet, c'est quoi l'Institut d'études et de stratégie et de défense ?
Alors, tout simplement, c'est un projet qui est venu de mon directeur, de mon chef, le professeur Olivier Zajec, qui est professeur de sciences politiques et qui a fait une partie de sa carrière. Il a eu plusieurs métiers dans sa vie. Le premier, c'est d'avoir été, comme je l'ai moi-même été, officier dans les armées. Et en fait, il s'est rendu compte, quand il a basculé à l'université, qu'il y avait un manque de connaissances, de maîtrise de ce qu'est le fait militaire, notamment en France. Et en fait, une déconnexion entre des militaires finalement qui font un métier mais qui ont parfois du mal à l'analyser ou le contextualiser, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau même des doctrines, des opérations et bien entendu de la relation politique, et des universités qui parlent très peu de la chose militaire. Et donc l'enjeu, c'était d'arriver à créer au sein de l'université un laboratoire de recherche dédié aux études stratégiques dans leur ensemble. Pour ce faire, eh ben, il s'est rapproché de l'université dans laquelle il enseigne, Lyon 3, et on est au même temps des armées, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un institut labellisé Centre d'excellence par le ministère des Armées, qui nous accorde un financement, et l'objectif, c'est de traiter avec le recul de la recherche fondamentale de l'université, sa liberté de ton, sa neutralité aussi, eh bien, toutes les questions qui se rapprochent aux faits militaires, aux études stratégiques, et pour développer aussi cette connaissance au plus grand nombre.
Est-ce qu'il existe des instituts semblables en France ou à l'étranger ?
Alors, semblable oui, identique non. Semblable, vous avez tout un ensemble de centres de recherche, mais privés, les traditionnels think tanks. En France, par exemple, on a l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, ou la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS, qui sont les principaux think tanks français, mais qui sont donc plutôt à répondre à des commandes publiques, des commandes privées. L'unicité de l'IESD, c'est qu'on est un laboratoire ancré à l'université. Donc, on a ce côté où on va, bien entendu, échanger, pourquoi pas répondre à des demandes de connaissances ou de production de connaissances des armées, mais on a avant tout une vocation universitaire et de la recherche fondamentale.
Cet institut a-t-il des relations avec l'école des hautes études militaires ?
Oui, il en a. On a quelques partenariats aussi importants. On va avoir des partenariats avec la nouvelle Académe, qui est en fait l'Académie de défense, qui doit fédérer tous les centres de réflexion militaire au sein de l'école militaire. Donc, par exemple, le Centre d'études stratégiques de la Marine, le commandant du combat futur, etc. Il y a aussi, on a des partenariats avec d'autres centres au sein des armées, ou alors même avec l'IHEDN. Donc, on essaye de développer ces centres-là avec des organismes militaires, mais aussi, bien entendu, avec des laboratoires de recherche universitaire.
Alors, tout à fait autre chose. Et si vous n'avez pas de réponse, vous pourrez sortir un joker. Pourquoi autant de femmes ministres de la Défense ?
Eh bien, écoutez, je vais pas sortir le joker, mais vraiment des visions personnelles. Le citoyen que je suis, là, c'est pas le directeur scientifique de centre, le citoyen que je suis pense que les armées ont un désir réel, de féminisation, mais aussi une problématique de féminisation, même si ça va mieux. Donc, je pense que c'est un moyen d'afficher politiquement que les femmes ont toute leur place dans les armées, y compris pour tenir les postes de commandement, voire le poste de plus haute responsabilité, hormis celui du président de la République.
D'accord. Alors, on voit souvent à la télévision un ancien général qui vient donner son point de vue sur, sur la situation, soit au Moyen-Orient, soit en Ukraine.
Oui, et...
Quelle est la pertinence de ces réponses, enfin, en tous les cas de ces explications?
Alors, je pense que c'est à la fois indispensable, mais que ce n'est pas suffisant. Indispensable parce que bon, bah, c'est le technicien militaire, c'est-à-dire que c'est celui qui a fait. On a eu le Covid, on avait besoin des médecins pour nous éclairer sur la maladie, sur ses conséquences. Est-ce que c'était suffisant? Non, parce qu'on voit bien qu'il y avait des considérations politiques et qu'il y avait aussi des considérations de recherche, par exemple en labo, si je reprends la même analogie, que ne possédait pas le médecin. C'est un peu la même chose sur le chef militaire qui vient s'exprimer. Il a la connaissance de son métier. C'est indispensable qu'il puisse parler et qu'il puisse, eh bien, nous présenter son volet technique et son expérience. Est-ce que ça veut dire que ça maîtrise tous les angles? Je ne pense pas. Et on a besoin de chercheurs aussi, d'universitaires qui vont travailler sur des questions très spécifiques, comme par exemple la relation politique, le nucléaire, ou même qui vont avoir la mise en contexte et le regard critique, aussi la distance critique nécessaire sur des conflits, sur la théorie affiliée au conflit, hein, la tactique, cette fameuse théorie du combat. Donc je pense, voilà, c'est bien entendu utile, mais c'est jamais suffisant, ni dans un sens ni dans l'autre, et ce qui est justement problématique, c'est que souvent on a un réflexe du technicien, en tout cas dans les médias, c'est-à-dire bon bah il y a une problématique qui touche à un conflit, on invite un militaire, il aura toutes les réponses. On a un problème médical, on invite un médecin, il aura toutes les réponses. Alors qu'en réalité, comme dans toute activité humaine, il faudrait une pluralité des profils, un panel plutôt représentatif, parce que c'est pas parce qu'un technicien vous parle d'un objet qu'il est capable de parfaitement vous en parler.
D'autant que ce général est à la retraite depuis quelques années. Donc, il parle souvent au travers de son expérience terrain, même si son expérience terrain était quand même très éloignée, parce qu'il n'était pas
Bien sûr.
véritablement sur le terrain, il était plutôt à la direction. Et son expérience n'est plus forcément adaptée à ce que l'on vit aujourd'hui.
Non, tout à fait. Et je pense que la guerre en Ukraine, si vous voulez, nous permet, enfin, en tout cas, moi, me confirme dans l'idée que pour pouvoir parler d'un objet aussi complexe que la guerre, c'est un objet d'étude. On l'oublie souvent. On pense justement que parce qu'on a fait une carrière ou parce qu'on a une expérience, on le maîtrise. C'est un objet d'étude. On n'a pas réglé les grandes questions philosophiques après des milliers d'années de controverses. Il n'y a pas de raison qu'un phénomène social comme la guerre puisse être réglé d'un coup d'un seul par une expérience. Donc, en réalité, je pense que ça nous invite à considérer la guerre comme un phénomène comme les autres, qui donc doit être étudié et constamment mis à jour. Et on a vu avec l'Ukraine. Il y a beaucoup d'anciens professionnels qui ont vite mangé leur chapeau ou se sont honteusement trompés parce qu'en fait, basant sur leur expérience, ils ont eu des solutions toutes faites ou des affirmations vraiment très tranchées. Or, on le voit bien, ça évolue et il faut toujours se mettre à la page. Et l'expérience est, comme dans toute activité, un guide utile, mais ça reste uniquement un guide et ça doit être complété par autre chose.
D'autant qu'on peut faire remonter la guerre aux premiers hommes. Dès que les hommes se sont constitués en groupe, il y avait déjà des rivalités à l'intérieur des groupes et puis aussi des rivalités entre les groupes.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment une dimension anthropologique très forte dans la guerre. Et c'est ce qui explique aussi que c'est une science qui nécessite d'être étudiée. Parce qu'on a des invariants dans la manière de la faire, dans la manière de les penser. C'est pas parce qu'on a des nouvelles technologies que tout s'efface. On le voit très bien. On redécouvre fondamentalement que bon, bah, une guerre qui tourne comme l'Ukraine à la guerre d'usure, eh ben, ça mobilise les sociétés humainement, matériellement, c'est un rapport économique fondamental. On redécouvre des choses qu'on pensait oublier, c'est la recherche de la percée, de la rupture, un front peut-être immobile. Tout ça, c'est des invariants qu'on a eu siècle après siècle. Et donc, en fait, il y a vraiment cette nécessité d'une mise en contexte approfondie.
Oui, c'était ce que l'on appelait les sièges il y a fort longtemps, où des troupes assiégeaient et empêchaient la sortie des populations, souvent enfermées dans un château, parfois un château fort, et qui étaient privées à la fois d'alimentation, donc de provisions, mais aussi de liberté.
Oui, tout à fait. Et on le voit bien que finalement, la mécanique, par exemple, de prise des villes, aussi malheureuse soit-il, n'a pas vraiment évolué. Soit vous êtes obligé de raser la ville parce que en fait, le bâtiment amène une protection et vous voulez enlever la protection. Soit eh ben, vous en faites en effet un siège herbétique pour épuiser les capacités. Soit vous doublez le siège une fois qu'ils ne peuvent plus sortir d'assaut. Où mètre par mètre, rue par rue, vous allez essayer de conquérir ce qui avant était la muraille, aujourd'hui va être le quartier.
Ouais, même, bon, vous le savez, j'habite Marseille, et Marseille a été privée de liberté. Vauban a construit deux forts devant le port de Marseille, non pas pour défendre les Marseillais, mais pour les empêcher de sortir, dont les troupes étaient sur les collines à l'extérieur de Marseille, et puis ces deux forts qui empêchaient les Marseillais de sortir pour aller s'alimenter, s'approvisionner.
Et on a exactement la même chose, moi qui suis lyonnais à Lyon, où les forts qui ont été construits, qui sont encore visibles dans le 9e arrondissement dans le quartier de Vaise, étaient faits à destination de la population qui s'était trop souvent rebellée et qui avait pris les mauvais partis, tantôt réactionnaires, tantôt impériaux, puis ensuite démocratiques. Donc oui, il y a exactement la même logique à Lyon.
Ouais, mais j'ai eu la chance moi aussi d'habiter à Lyon pendant 5 ans, et c'est une ville que je connais un peu, que j'ai beaucoup appréciée. Alors, on va quand même revenir à votre livre. Alors, pourquoi ce livre Géopolitique des petites puissances?
Alors, pour deux raisons simples. La première, elle est personnelle, c'est-à-dire que c'est la synthèse de ma thèse.
D'accord.
Moi, j'ai fait ma thèse à l'Université du Luxembourg sur la grande stratégie des petites puissances. Alors, ça ne s'invente pas, hein, je fais quelque chose sur les petites puissances au Luxembourg. Sur une idée qui était venue que quand on caractérise les relations internationales et la géopolitique, dans le discours, comme dans même mes propres représentations, on ne voit que les grandes puissances. Les images qui viennent, c'est Russie, Chine, États-Unis, pourquoi pas France, etc. Voilà, on pense le grand, le puissant. Et en fait, si on fait ça et qu'on prend la liste de tous les pays dans le monde, on exclut quoi? 90, 95% des États du monde. Pourtant, ces États-là, ils ont des relations, ils ont des influences. Donc, c'est parti de là. Et au fil donc de mon travail de thèse, ça c'était le volet personnel, je me suis rendu compte que non seulement il y avait une nécessité bah, de parler des autres et pas simplement des grandes puissances, mais qu'en plus, et c'est l'enjeu principal, c'était l'objectif de ce livre, c'est que ces petites puissances, qu'elles le veuillent ou non, elles font l'actualité. Notre contexte géopolitique moderne, depuis la fin de la guerre froide, est tourné vers ces petites puissances. Alors pour plusieurs raisons, déjà parce que la mondialisation a fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être une cité-État comme Singapour, mais être une grande puissance économique parce que vous avez joué sur certains mécanismes, parce que vous êtes bien placé, parce que vous subissez, comme le fait l'Ukraine, bah, d'être un État pivot, comme disait Brzezinski, et donc, ou comme Taïwan. Donc même si vous ne le voulez pas, vous êtes un enjeu géopolitique majeur, peut-être même l'enjeu géopolitique du siècle. Donc il y a toutes ces notions-là. Et donc je me suis dit, non seulement on n'en parle jamais, on n'y pense jamais, mais en plus, elles ont un rôle fondamental aujourd'hui. Donc, essayons de voir si comment on peut les définir déjà, comment on peut les comparer, est-ce qu'elles ont des caractéristiques, des invariants, des caractéristiques spécifiques dans leur comportement dans les relations internationales, et qu'est-ce qu'on peut en retirer? Voilà un peu d'où ça vient.
Okay. C'est comme ça donc que vous définissez la géopolitique.
Alors, pour moi, la
C'est plus
géopolitique, bon, il n'y a pas
complexe que ça.
de définition consensuelle. J'aime beaucoup la définition donnée par Yves Lacoste qui disait c'est les rivalités de pouvoir sur un territoire. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que ça va à l'essence, moi, de ce qu'est la géopolitique pour moi. Alors, je suis historien, mais forcément, j'ai une importance particulière avec la géographie. Pour moi, la géopolitique, c'est les relations entre. Bah, c'est ça, cette définition. C'est les relations entre entités politiques, mais caractérisées par la géographie. Pourquoi? Parce que, à mon sens, on ne fait pas la même chose. Et on n'a pas les mêmes relations et les mêmes enjeux si on est dans le détroit de Malacca que si on est frontalier avec la Russie ou que si on est aujourd'hui, comme le Luxembourg, enclavé entre des États amis. Et donc, moi, le contexte géopolitique, c'est comme ça que je le vois, c'est à une période donnée, eh bien, les relations entre États vis-à-vis de la géographie. Et pourquoi je vois cette logique relative de la géopolitique? Parce que c'est très important quand on parle des petites puissances. Parce qu'on comprend l'évolution du statut de certains États. Si par exemple on prend l'Autriche, c'est un cas que j'aborde dans le livre, selon les siècles, c'est la même géographie, mais vous passez de hyperpuissance, puissance dominante, superpuissance, et aujourd'hui un État finalement, on pourrait dire un nain politique européen et mondial qui assume une neutralité et qui ne veut plus s'occuper des affaires du monde. À l'inverse, on prend le Luxembourg, même géographie, à peu près même statut, en fonction des siècles. La contrainte géographique n'est pas du tout la même. C'est une vraie faiblesse à partir de son indépendance, parce que quand on est enclavé entre deux puissances rivales que sont l'Allemagne et la France, aujourd'hui c'est une vraie force, parce qu'on est enclavé entre que des habits et des communautés de destin, entre le Benelux, eh bien, la France et l'Allemagne. Donc voilà, je pense que c'est pour moi cette vision très relative, finalement qui revient aux fondamentaux de ce que disait Yves Lacoste, c'est des relations politiques à un moment donné vis-à-vis de caractéristiques géographiques.
À quel moment commencent les premières études de géopolitique?
Alors, il y a un vrai débat là-dessus. La popularisation géopolitique, elle se fait vraiment au tournant de la fin du 19e siècle, sur ce qu'on a appelé l'école allemande, alors qui est un peu abusivement l'école allemande, puisque vous avez eu aussi des Scandinaves hein, qui réfléchissaient. En fait, elle est contemporaine de toute la réflexion autour, eh bien, de l'affirmation de l'État, mais surtout, de l'affirmation, du concert des nations. C'est vraiment quelque chose qui, suit, l'émergence des États et l'émergence des nouveaux États. C'est pas pour rien que ça se développe en Allemagne, c'est parce qu'on a un État ou une puissance qui cherche déjà à s'affirmer. On passe de la Prusse, à un État allemand, mais qui est un État allemand multiculturel qui, ne doit apprivoiser sa géographie. Est-ce que sa géographie, elle est tournée vers l'ouest avec la problématique française sur laquelle s'est assise l'indépendance? Est-ce qu'elle est plutôt vers le sud avec la problématique autrichienne? Est-ce qu'elle est portée vers l'est, qui sera plutôt la destinée, alors jusqu'au Lebensraum funeste? Mais est-ce que porte vers l'est? Est-ce que porte vers le nord? Donc en fait, c'est la réflexion vraiment de l'affirmation de l'État vis-à-vis du territoire, qui va s'opposer ensuite à des écoles plus libérales, notamment anglo-saxonnes et françaises. Et l'essor principal de la géopolitique, il est dans l'entre-deux-guerres, avant un discrédit qui va porter des années 40 jusqu'aux années 70-80, justement à cause de l'accointance. Alors, il y a un débat, hein, bien sûr, historiographique, mais en tout cas, de l'utilisation de la géopolitique par l'Allemagne nazie pour en faire un programme de politique étrangère.
Que sont les petites puissances? Donc, les petites puissances économiques, militaires.
Alors, c'est un vrai débat. Et d'ailleurs, le travail premier a été celui de la définition. Comment on caractérise, en effet, comment on est une petite puissance, pourquoi, et surtout, géopolitiquement, et c'est pour ça que c'est intéressant, comment on l'inscrit dans le temps. Pourquoi je dis ça? Parce que si en fait on fait des critères matériels, c'est-à-dire une grande puissance, c'est la puissance qui est tant économiquement, etc., etc. En fait, si on s'arrête là, ça veut dire qu'on doit avoir des puissances et un statut de grande puissance qui doit être homogène dans le temps. Et on ne peut pas comprendre l'émergence de la Prusse, l'émergence de l'Empire romain et les chutes, comme je parlais de l'Autriche tout à l'heure. Donc en fait, j'ai eu un double travail de définition. Qu'est-ce que c'est qu'être petit? Et qu'est-ce qui fait qu'un jour on est petit et que demain on n'est pas petit? Donc je suis allé chercher des concepts et c'est une lecture comme une autre, mais en tout cas, moi, c'est le marqueur que j'avais pris dans ma thèse et que j'ai retranscrit dans le livre. Je l'ai mis face dans une vision relative de la puissance, et comme c'est relatif, c'est dialectique, donc c'est vis-à-vis de l'autre. Pour moi, on est une petite puissance parce qu'on se reconnaît qu'on n'est pas une grande puissance ou qu'on a un état d'infériorité vis-à-vis d'une autre. Donc je reprends un concept célèbre qui s'appelle le dilemme de sécurité, qui est de dire que nos actions conscientes ou inconscientes peuvent provoquer un sentiment d'insécurité chez l'autre. Donc ce fameux dilemme de sécurité. Et donc c'est une dimension qui est très relative et qui est en fait contextuelle. Et j'ai appliqué aux petites puissances, ça me permet de définir que l'hyperpuissance, c'est celle qui ne fait que provoquer des dilemmes de sécurité, qui n'en subit pas sauf d'une hyperpuissance. Bon, les Américains et l'Union soviétique pendant la guerre froide, ils ont pu avoir des problématiques militaires comme les Américains au Vietnam, mais ils n'étaient pas menacés structurellement par autre que l'hyperpuissance. Et ainsi de suite, et on décroît après, bah, la grande puissance est celle qui reçoit des l'hyperpuissance et des autres grandes puissances, mais qui ne subit pas des autres, etc., jusqu'à la petite puissance. Pour moi, la petite puissance, c'est dans un contexte géopolitique, la puissance qui ne fait que subir des dilemmes de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'elle est incapable, Mais ça veut dire que son statut fait que parce qu'elle est entourée d'ennemis puissants, parce que elle a un trop petit territoire, parce qu'économiquement elle est faible, ou pour des raisons cumulatives, c'est elle qui se sent en insécurité et son existence même ne pose pas une menace vis-à-vis de l'autre. Et en fait, c'est important de voir ça, à mon sens, parce que déjà, on comprend que ça peut évoluer. La petite puissance d'aujourd'hui peut acquérir un statut qui fait que c'est elle qui domine et qui fait peur, et dans ces cas-là, elle n'est plus une petite puissance, et inversement. Et surtout, ça permet des relations dynamiques et qui se prêtent à la géopolitique. Singapour n'est peut-être pas une petite puissance en termes économiques et militaires pour son étranger immédiat, mais vis-à-vis de la Chine, elle l'est. La Pologne ne sera pas une petite puissance vis-à-vis des États d'Europe centraux, mais sera une petite puissance vis-à-vis de la Russie, parce qu'elle se ressent comme telle, et ainsi de suite. Et on peut avoir aussi ces évolutions dans le temps qui sont assez importantes. Donc, si je devais résumer, la petite puissance, pour moi, c'est une vision relative. Alors, bien sûr, il y a des critères matériels. Si vous êtes un État-continent, vous avez des prédispositions à. Mais on voit bien que l'Ukraine, le simple fait d'avoir un État immense, ne fait pas de vous une grande puissance. Donc, il y a des considérations, mais voilà, c'est relatif. Et comme c'est relatif, j'utilise cette logique du rapport à l'autre, qui est très géopolitique. Est petite la puissance qui, eh bien, ressent la menace vis-à-vis des autres, mais qui, par elle-même, ne l'exprime pas.
Si toutes ces petites puissances s'entendaient, se réunissaient, elles deviendraient une hyperpuissance.
Exactement. Et elles le font déjà, elles ont des mécanismes d'influence, notamment la plupart des petites puissances ont très bien compris les mécanismes des grandes instances internationales, et notamment le principe de un État égale une voix. Et Singapour a créé dans les années 70-80 le Forum des petites puissances à l'ONU pour en fait faire avancer les intérêts des petites puissances, tout simplement parce que 10 petits États face aux États-Unis, ça fait 10 voix de plus. Et donc, du coup, 10 fois plus de voix plutôt. Et donc, du coup, elles sont donc 10 fois plus influentes sur une instance internationale, par exemple à l'Assemblée générale des Nations unies. Et ils ont tout à fait compris ça. C'est le même mécanisme dans l'Union européenne ou même dans les alliances comme l'OTAN. Si on prend le cas du Luxembourg, vous avez une surreprésentation des officiers supérieurs à des postes de commandement importants de l'OTAN parce qu'ils développent une certaine qualité, ils sont appréciés, etc., etc. Donc, ils arrivent déjà, ils comprennent déjà, et c'est ce qui était intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre-là, de montrer qu'ils développent des mécanismes internationaux qui sont bien construits pour, vis-à-vis de développer cette image-là, développer ces concepts-là. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas capable, c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas peser. Et en effet, souvent, dans les instances internationales, c'est l'union qui fait la force.
Dans la quatrième de couverture de votre livre, il y a plein de questions. Comment comprendre la résistance inattendue à l'agression russe en Ukraine?
Eh ben, justement, on le comprend si on étudie la petite puissance. Si on ne l'étudie pas, on fait ce que beaucoup ont fait dans un premier temps, un rapport quantitatif. Il y a tant de chars d'un côté, tant de chars de l'autre. De toute façon, la Russie, c'est la deuxième armée du monde, donc ils sont forcément vainqueurs. Ça ne veut pas dire que la Russie ne pouvait pas gagner. Ça veut dire que, selon ce schéma, elle était obligée de gagner. Alors que si on regarde ce qu'ont fait les Ukrainiens depuis 2015, donc depuis l'annexion de la Crimée et leur constat d'échec, vous avez toute une remontée en puissance, par l'aide de l'OTAN, par les Américains, par des étrangers proches aussi, donc pour acheter des nouveaux matériels, mais aussi pour penser doctrinalement. Et donc l'Ukraine, dans ses documents de 2019, 2020, 2021, s'entraînait à un scénario d'invasion massive et en fait avait développé ses forces armées pour ne pas être subjuguée en quelques jours, en quelques semaines, essayer au moins de tenir, mobiliser massivement l'assistance militaire internationale. Donc en fait, ça veut dire que si on a une logique classique et qu'on ne pense pas que les petites puissances ont une influence géopolitique, on reste sur des rapports de force brute et on reste dans une logique, le puissant gagne toujours. En réalité, non. Et ça invite à, si on prend plus en compte les petits, et en l'occurrence, dans ce cas-là, le petit qu'est l'Ukraine, on comprend qu'il y avait des ressorts fondamentaux qui expliquent en partie ce qui s'est passé aujourd'hui, qui expliquent que, le rapport était forcément déficitaire côté ukrainien, mais il n'était moins systématique qu'on voulait le dire au départ.
Est-ce que cette stratégie de préparation mise en place par l'Ukraine n'était pas une mauvaise bonne idée? Parce qu'en fait, le fait de résistance de l'Ukraine a abouti à la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Oui, mais alors là,
Si l'Ukraine avait accepté de se laisser envahir, les populations n'auraient pas été particulièrement impactées.
non, mais en fait, là, vous vous heurtez à un principe politique qui est l'indépendance de l'État. Et en fait, souvent, la petite puissance lutte pour sa survie et son indépendance. Et donc, elle est prête à eh bien, se défendre, hein, comme bah, par exemple les Finlandais l'avaient fait face à l'Union soviétique. Hein, c'est de dire, oui, si vous faites le rapport de puissance brute, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on accepte soit eh bien, de disparaître en tant que communauté étatique, soit d'accepter qu'un autre décide pour nous. Donc en fait, après, c'est une question de rapport politique. Et bien entendu que le rapport entre la perte humaine et la perte politique peut se discuter. C'est une question qui est plus, à mon avis, philosophique que géopolitique. Toujours est-il qu'en termes de géopolitique, ça implique que on défend la communauté, ou alors on accepte que quelqu'un soit tout puissant. Et dans l'ensemble des guerres, il y en a toujours un qui se couche pour ne pas la faire et ne pas payer le prix du sang. Donc je pense qu'on se heurte face à une question politique très importante, qui en tout cas est viscérale chez les petites puissances sur le côté de la survie. Assurer sa survie alors qu'on est petit, c'est vraiment un cadre géopolitique et une constante de politique internationale, encore plus forte chez les petits que chez les grands, parce que la survie, elle est mise en cause dès qu'il y a conflit. Là où les grands peuvent mener un conflit extérieur ou indirect sans vraiment mettre en cause leur survie. Donc on a cette question-là qui est fondamentale. Après, le rapport entre la vie humaine et la communauté politique, là, on est plus sur de la philosophie que de la géopolitique.
Bien sûr, bien sûr. Alors, pareil, pourquoi un micro-État comme Singapour est-il devenu une superpuissance financière? Et comment, pourquoi n'a-t-il pas été empêché?
Alors, justement, là, on se heurte à deux choses assez intéressantes. L'importance du contexte géopolitique et la place laissée grâce à la mondialisation. En ce qui concerne l'importance du contexte géopolitique, l'indépendance de Singapour n'a pas été souhaitée à l'origine. C'est-à-dire que c'était bon, bah voilà, c'était avec l'indépendance de la Malaisie et on pensait avec une certaine communauté autonome, mais autonome dans le cadre de la Malaisie. Il y a eu une indépendance qui s'est faite. Et donc, il a fallu assurer les ressorts eh bien, de cette survie-là face à un contexte géopolitique où, dans un premier temps, donc vous avez un ancien colonisateur, les Britanniques, qui désengage massivement d'Asie, et une guerre froide qui s'installe et qui est centrée sur d'autres acteurs. Et donc, Singapour peut prendre, dans ce premier temps-là, appui, donc un phénomène qu'on appelle le bandwagoning, donc aller jouer un peu sur l'ensemble des camps et des alliances. Sa posture de neutralité, plutôt complaisante vis-à-vis des Américains, mais de neutralité, lui laisse la possibilité, eh bien, de se développer, d'apparaître comme un partenaire d'intérêt dans une Asie où, très polarisée, et ce qui explique que Singapour est encore aujourd'hui souvent la place des grands sommets internationaux. La rencontre entre le dictateur nord-coréen et Donald Trump s'est faite à Singapour, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est l'État qu'on voit comme neutre de la zone. Et ensuite, donc ils ont développé des ressorts économiques en s'appuyant sur le détroit de Malacca. Il y a aussi eu quelque chose qui est très intéressant, c'est Singapour, ils ont tout de suite très tôt investi sur le haut niveau de leur éducation pour sortir en fait une population très qualifiée qui leur permettrait d'obtenir des postes dans la haute technologie et la finance. Et après, avec l'éclosion, et c'est le deuxième point, ils ont fortement profité de la mondialisation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment un contexte qui a été favorable à l'éclosion et au rôle géopolitique des petites puissances. Parce que quand vous avez cette population à haute valeur ajoutée qui est plutôt bien insérée dans l'économie mondiale et que du jour au lendemain, vous dites, bon, eh bien, maintenant, on va tout dématérialiser et on n'a plus besoin d'une assise territoriale. On n'a plus besoin vraiment, il y a des grandes bourses qui restent, mais vous pouvez avoir des avantages comparatifs, vous pouvez être des plateformes d'échange, des hubs aéroportuaires beaucoup plus facilement. Ceux qui étaient prêts au niveau des petites puissances et qui avaient déjà des capacités financières initiales ont pu en profiter, et c'est le cas de Singapour, qui en plus a une vision stratégique assez intéressante parce que n'étant inséré dans aucune alliance militaire très formelle, bon, il y a l'ASEAN, mais c'est pas non plus l'OTAN, ils ont cherché à développer une capacité militaire autonome et conscient de la petitesse de leur population, ils ont développé toute une stratégie autour des coûts inacceptables, un peu comme pour la dissuasion nucléaire, mais en termes conventionnels. C'est-à-dire, vous pouvez nous envahir, mais il restera rien et vous allez perdre tellement. Et en fait, pour ça, ils ont utiliser leurs capacités financières et technologiques pour produire une armée fortement technologique. Et donc, tout ça s'est co-construit. Un contexte initial favorable, des choix politiques payants de focal sur l'éducation, la haute technologie, et ensuite l'ouverture d'un contexte mondialisé qui permet d'éclore, font que Singapour, en pensant bien son action et en profitant deux fois d'un contexte favorable, a pu éclore comme l'archétype d'une petite puissance qui développe des avantages comparatifs certains.
Dans les années 85-90, Singapour était très attractif, vous avez raison, et a invité des entreprises étrangères à les faire avancer, et notamment, ils avaient invité Bull et Thomson, donc deux grosses entreprises françaises, à automatiser le port et la gestion du stockage des containers.
D'accord. Ouais, écoutez, ça,
Et
je ne savais pas, mais c'est voilà, on est bien dans cette logique, oui.
à cette époque-là, je dirigeais une toute petite entreprise développait des systèmes experts, donc qui s'intéressaient à l'intelligence artificielle. Et j'étais allé à Singapour pour voir ce qui s'y passait et comment ça se passait. Et ils avaient une démarche qui était vraiment très, avec plein de guillemets, mais très chinoise. À la fin d'une discussion, je leur demandais, mais qui va payer le développement de tel produit? Et ils disaient, nous, on ne sait pas. J'ai dit, mais moi, je sais, ce n'est pas moi. Donc, ils étaient tout à fait d'accord pour que des entreprises étrangères viennent les faire progresser, mais ils n'étaient absolument pas d'accord pour mettre la main au porte-monnaie.
C'est
Donc,
intéressant.
ça a été une expérience très, très, très intéressante, peut-être. C'était la première fois où je négociais vraiment avec des Chinois, parce qu'en fait, ce sont les Chinois qui dirigent Singapour, enfin, qui dirigent le commerce de Singapour, et ce sont des gens absolument redoutables en négociation. Alors, vous continuez en disant, qu'est-ce qui permet aux monarchies du Golfe d'exercer autant d'influence? Alors, bien sûr, le
Alors là,
contrôle, mais
on
pas
a.
que.
Non, 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 bien sûr, bien sûr. En fait, on a l'archétype d'un État ou d'États qui, justement, utilise une ressource matérielle, en l'occurrence les hydrocarbures, mais qui le transforme. On n'a pas une exploitation binaire, j'utilise du pétrole, je suis riche, point. En fait, il y a vraiment le développement d'une stratégie d'influence, alors sous deux volets. Il y a la nécessité pour ces États de chercher des solutions de diversification économique. Alors ça, c'est leur émergence à partir du début des années 2000, ce qui explique les investissements tout azimut en Europe. Je pense bien entendu au football, mais également à l'hôtellerie, etc., etc. La nécessité même d'investir dans certaines énergies vertes pour pouvoir disposer de brevets. En fait, il y a cette nécessité de diversification qui font que très tôt, on a une utilisation de la manne pétrolière qui n'est pas faite uniquement, même si c'est le cas, pour enrichir les dirigeants, mais qui est pensée comme une diversification économique. Et notamment, cette diversification économique, elle s'appuie aussi sur la valorisation du secteur touristique, qui aujourd'hui explique, en fait, ils arrivent à cueillir ces fruits-là. Maintenant, c'est le paradis fiscal un peu de tous les exilés. On pense notamment aux Russes suite aux sanctions. Vous avez aussi le paradis fiscal de tous les influenceurs. Donc, mine de rien, d'accueillir ces personnes-là et de développer ce tourisme de masse hein, par rapport à ces petits États fait que déjà on prend un pouvoir d'influence important. Et ça, c'est la diversification des ressources en hydrocarbures qui l'ont permis. Mais on a aussi un choix assumé. Alors, notamment du Qatar, eh bien, convertir cet argent-là en influence et en influence idéologique, notamment religieuse. Et donc, on a eu la volonté, et on a encore hein, la volonté, notamment par le Qatar, d'investir massivement eh bien, dans certaines communautés religieuses pour être en fait le référentiel théologique et donc le référentiel aussi d'influence et forcément d'user et de. Une influence sur des diasporas, eh bien pour déjà contrebalancer certains États dominants en la matière, comme l'Arabie Saoudite, mais aussi pouvoir en fait développer d'autres ressorts et parler du Qatar, pas simplement parce que il y a des gisements en hydrocarbures, mais aussi parce que eh bien ils sont présents mondialement dans leurs achats, ils sont présents mondialement et c'est une référence pour certaines communautés. Et donc voilà, on a plutôt en fait un jeu sur la diversification économique. la diversification de l'influence qui, grâce à la manne pétrolière, permet de développer une caisse de résonance internationale qui est quand même sans commune mesure avec l'importance qui va être militaire ou même la grandeur de cet État ou son attractivité. Et on le voit bien, cette influence-là sur les communautés, alors réelle et supposée, hein, parce que percevoir concrètement l'influence, c'est difficile, mais en faire un interlocuteur essentiel désormais dans les règlements des conflits au Moyen-Orient. On le voit très bien en tant qu'intermédiaire sur le conflit actuel à Gaza. Il y a encore quelques années, voire une dizaine d'années, le Qatar n'aurait pas été un interlocuteur. Ça aurait peut-être été plutôt la Jordanie ou etc. Mais comme ils sont maintenant représentatifs d'une communauté de valeurs, qu'ils sont aussi identifiés par certains groupes comme une référence théologique, eh bien forcément, ils deviennent un acteur international, un acteur régional qu'ils n'auraient pas été ou que personne n'aurait soupçonné il y a encore une quinzaine d'années.
C'est pour ça qu'ils sont invités autour de la table.
Exactement. Exactement.
Vous poursuivez en écrivant, cette logique de David contre Goliath n'est pas nouvelle, elle est même une constante dans l'histoire des petites puissances. Les gros comme les petits se sont toujours bagarrés pour faire le coup.
Oui, ils se sont toujours bagarrés et si on regarde l'histoire militaire, la victoire du gros sur le petit n'est pas automatique et elle n'est pas forcément le cas le plus probable. Parce que quand on regarde, vous avez déjà un type de guerre qui est très peu favorable aux gros. C'est, alors on en a parlé pendant 20 ans, mais tout ce qui va être les guerres de contre-insurrection. Des exemples où le grand gagne une guerre de contre-insurrection, on doit en compter sur les doigts de la main, et encore, je ne suis même pas sûr qu'on en trouve vraiment. Là où les échecs, on peut en faire une liste longue comme le bras, et ne serait-ce qu'en citant les plus connus dernièrement, Irak, Afghanistan, l'opération Barkhane au Sahel, le Vietnam, bien entendu, etc., etc. Donc vous avez déjà un mode de guerre qui est plutôt favorable aux petits qu'aux gros. Et ensuite, même dans la guerre majeure, les exemples historiques de la victoire du petit, ou du moins d'un petit qui arrive à mettre suffisamment à mal le gros pour sortir par le haut et éviter de disparaître, sont légion. Je parlais tout à l'heure de la Finlande face à l'Union soviétique, on le voit encore avec l'Ukraine. Le petit n'est pas forcément celui qui va perdre, et au contraire, c'est plutôt une constante historique qu'il faut recontextualiser. Pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'on a un peu l'impression, bien sûr, il y a des bouleversements avec cette guerre en Ukraine, mais on a l'impression qu'on redécouvre tout, que tout est neuf. On n'avait jamais vu ci, on n'avait jamais vu ça. Et quand on se penche sur toutes ces questions, et notamment, en l'occurrence, sur le volet géopolitique et capacité pour une petite puissance à contrarier la volonté d'une grande puissance, on se rend compte que finalement, rien de nouveau sous le soleil.
Je réalisais tout à l'heure une émission avec l'un de vos collègues qui est sociologue, spécialiste du journalisme, et on abordait ensemble l'influence ou la responsabilité, la participation des journalistes à commenter tous ces conflits. Et souvent, on voit naître, apparaître des journalistes qui deviennent des spécialistes. Alors que même s'ils ont couvert quelques épisodes, ils ne sont pas des chercheurs, donc ils n'ont pas cette connaissance universitaire.
Oui, tout à fait. Et puis, je pense que l'information en continu exporte ce besoin de nouveauté. Quand vous devez maintenir une antenne toute la journée, jour après jour, sur finalement des thématiques où parfois il y a des nouveautés, mais parfois ça change pas beaucoup, vous avez une tentation de la nouveauté, une tentation de du scoop. Et ça, c'est contraire eh bien, aux sciences, et c'est contraire en l'occurrence à l'histoire militaire, qui montre que bon, bah oui, il y a des nouveautés, mais il y a surtout beaucoup d'invariants. Et donc, ce qu'on veut nous vendre comme nouveau parce qu'il faut absolument traiter d'un sujet et montrer qu'il se passe quelque chose, fondamentalement, n'est pas si neuf que ça.
Est-ce que les journalistes viennent se nourrir auprès de l'université et tout particulièrement auprès de votre laboratoire pour venir chercher de l'information? Parce qu'en fait, il n'y a de l'information que s'il y a de la source.
Oui, tout à fait. Alors oui, je fais régulièrement des passages médiatiques. Et c'est pas forcément. Alors, il y a des journalistes qui sont volontairement dans le buzz, etc. Mais vous avez des journalistes très très compétents qui cherchent à. Et j'en parle souvent avec eux. Le problème, c'est qu'ils ont les contraintes de leur format de média. Et quand vous êtes un format papier, vous pouvez poser un peu plus des idées, Mais vous êtes limité par le nombre de caractères. Est-ce que c'est une? Est-ce que c'est un petit paragraphe ou un tout petit article ou un article qui fait 4 pages? Bah, vous voudriez dire des choses, mais vous ne pouvez pas. Il y a une question ensuite d'audience. Il faut quand même être lu. Donc, il faut pouvoir intéresser. Et souvent, et vous le savez bien, la science est un peu, et les études universitaires sont quand même un peu sèches et sont pas toujours très sexy. Si je puis dire, parce que c'est la vérité et parce que c'est de la recherche et que ça prend du temps, donc c'est peut-être moins vendeur. Et puis enfin, je pense qu'il y a quelque chose aussi, c'est que, et c'est l'une des fonctions de l'IUSD, et moi tout particulièrement, je me défends là-dessus sur les études stratégiques, on a aussi eu une perte fondamentale de connaissances et d'intérêt pour l'étude des conflits ces dernières décennies. Donc on a eu très peu de recherches sur le sujet. Contrairement aux Anglo-Saxons avec leur War Studies, alors il y a aussi des défaillances, hein. Il n'y a aucun modèle qui est parfait. Mais en tout cas, ils ont eu longtemps des universités, ils n'ont pas eu de rupture universitaire. Nous, on a eu très peu de chercheurs sur ce sujet-là pendant des décennies. Bah forcément, on a un manque de masse critique, on a un manque d'outils d'analyse et on a même un manque de cadres conceptuels et théoriques français qui nous permettent d'analyser les choses et de les poser. Donc tout ça cumulé fait que malheureusement, même quand il y a de la bonne volonté, la capacité à mettre en contexte et à prendre le temps, comme on le fait ici, et je vous en remercie d'ailleurs sincèrement, de poser les choses est extrêmement rare.
Comment vous expliquez cette disparition de chercheurs, en tous les cas, cette absence de chercheurs? Est-ce qu'il est possible de récupérer tout ce pan d'histoire qui n'a pas été abordé, en fait?
Alors, je vais vous répondre d'abord par la deuxième partie. Oui, je pense, et ça commence. On a de plus en plus de masters. Nous, on est aussi un master en sécurité internationale et défense. Donc, on a de plus en plus d'étudiants qui sortent, de mémoires qui sont produits, de thèses qui sont soutenues. Donc, le rattrapage se fait. Ça prend du temps, mais il se fait. Quant aux raisons, moi, je pense qu'il y en a au moins trois. La première, c'est un monde universitaire spécifiquement français, pas que français, mais européen continental qui a refusé les études sur la guerre et qui, dans les années 70, a vraiment critiqué l'histoire militaire. Et avec raison sur certains côtés, une histoire qui était basculée dans une histoire bataille, qui ne prenait pas en compte le point de vue du combattant, etc. Donc il y a eu vraiment des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses, et notamment dans, pas la critique marxiste en tant que telle, qui avait un intérêt, mais dans l'extrapolation de la critique marxiste, qui était qu'en fait, on ne parlait plus de la guerre parce que la guerre, c'est mal. Et donc, en fait, vous avez tout un pan de l'université qui s'est désintéressé et qui même condamnait les études. C'était pas vendeur pour avoir une carrière universitaire dans les années 70 et encore maintenant, c'est difficile, mais de dire, bah, moi, je vais parler de la guerre, je vais parler des opérations. Je pense qu'il y a déjà ça qui fait que le monde universitaire redécouvre progressivement, mais a du mal et qui a d'autant plus de mal. Et ça, c'est compréhensible et c'est mon deuxième point parce que vous avez une communauté militaire qui a cultivé, notamment depuis la professionnalisation, un peu l'entre-soi. Et donc, vous avez eu un scepticisme réciproque où le militaire et ce technicien qui estiment que si on n'est pas militaire, on ne peut pas parler de la guerre correctement parce qu'on n'a pas vécu. Et l'universitaire qui nous explique aussi à juste titre que bon, bah, c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose qu'on le comprend et faire des analogies historiques sans avoir la profondeur de la recherche universitaire, c'est pas sérieux. Les deux ont raison. Toujours est-il que ce fossé, à mon sens, n'a cessé de se creuser. Donc, ça, plus un monde universitaire peu enclin, est mon troisième point. Je pense que la bascule, la fin en fait du risque de la guerre majeure, on va dire ça comme ça, dans un premier temps avec la disparition de l'Union soviétique, fait que bon, bah, à part pour quelques historiens militaires très intéressés par l'étude des conflits anciens, la guerre avait un peu disparu de notre référentiel. C'est tant mieux en soi, c'était tant mieux, maintenant elle revient. Mais c'était tant mieux, mais elle avait disparu aussi du référentiel. Pourquoi parler de la guerre alors qu'elle n'y est plus, hein, c'est les fameuses théories de la fin de l'histoire, et qu'elle n'a plus vocation à l'être. Pourquoi parler de la guerre alors que de toute façon, les militaires gardent ça pour eux et c'est pas crédible? Et enfin, du coup, pourquoi parler de la guerre alors qu'en université, on n'aime pas ça et qu'il n'y a pas d'universitaire? Je pense que ça a fait mal, mais qu'aujourd'hui, on en revient. Et je suis d'autant plus attaché à cela que je pense qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'il y ait une école française parce que, notamment en termes d'histoire et de sciences politiques, on a vraiment eh bien une puissance conceptuelle et une force de recherche que n'ont pas beaucoup d'autres États européens. Et donc, si ces grandes disciplines se saisissent de la guerre, se saisissent des opérations, vont produire un savoir et un savoir qui est, j'ai beaucoup de respect pour la production universitaire anglo-saxonne, mais on a aussi nos visions. On a aussi, je pense, nos intérêts et c'est bien qu'une école française puisse émerger un jour. Donc je pense qu'on va quand même vers le mieux.
Mais d'autant qu'il y a besoin de savoir d'où l'on vient pour inventer où on peut aller.
Exactement, exactement. Et c'est mieux si on recherche d'où l'on vient par soi-même et qu'on n'exporte pas la vision des autres parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de discipline affilée.
Vous parlez de la notion de puissance et de sa problématique.
Oui, ben c'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire que si en fait on caractérise la puissance dans sa vision commune et dans la vision qu'on a exportée dans les théories de relations internationales, brute, c'est-à-dire bah, le plus puissant, c'est le plus grand, le premier économiquement, celui qui a le plus de troupes, etc. Bon, bah déjà, vous ne traitez pas de la problématique des petits États, puisqu'encore une fois, ça veut dire que ne sont puissants que quatre États et encore, est-ce que ne seraient pas puissants que les Chinois et les Américains, donc pourquoi on ne parlerait pas que d'eux? Et surtout, encore une fois, on ne prend pas en compte l'évolution de cette puissance, cette relativité, que le puissant d'aujourd'hui n'est pas le puissant de demain, que ce n'est pas parce qu'on est le plus puissant qu'on va forcément gagner, qu'on a toujours raison, et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on est le moins puissant qu'on n'a pas d'influence, qu'on n'agit pas, qu'on n'est pas novateur, qu'on n'a pas des choses intéressantes à faire et qu'on a faites et donc qui méritent d'être dites. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie problématique autour de la notion de puissance parce qu'elle est trop enfermée dans une logique quantitative. On compte celui qui a le plus, alors c'est le meilleur et ça règle le débat. Sauf que la vie, c'est pas mathématique. Il y a les lois mathématiques qui sont importantes, mais les relations sociales ne sont pas mathématiques. Et donc, il n'y a pas de raison que la géopolitique soit mathématique. Donc, la notion de puissance, pour moi, est problématique et elle nécessite, alors j'en propose l'une des interprétations possibles. J'ai pas vocation à l'exhaustivité ou à dire que j'ai la solution, bien entendu. Mais en tout cas, je pense qu'il faut réinterroger globalement cette notion et que c'est d'autant plus vital pour les petites puissances parce que sinon, elles sont considérées telles que c'était dans les années 70-80. Dans les théories des relations internationales, on appelait ça les non-acteurs. Sauf que si vous dites ça, bah, encore une fois, on ne comprend pas 90% de ce qui se passe dans le monde.
Ben c'est ce que vous développez dans le paragraphe Petite puissance et géopolitique. Les acteurs des relations internationales sont une vision dépassée.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, sinon, on est prisonnier d'un modèle de la guerre froide qui peut expliquer certaines choses. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que le monde ne tourne qu'autour de la nouvelle opposition, et avec des grosses guillemets, entre les États-Unis et la Chine. Et vous devez vous positionner, vous êtes soit d'un côté, soit de l'autre. Sauf que ça ne règle pas la question du Moyen-Orient, ça ne parle pas de l'Europe, ça ne montre l'Asie comme un bloc qu'elle n'est pas, ça ne parle pas de ses relations et ses acteurs ne sont pas partout, ses acteurs ne font pas tout et ne sont pas tout. Et donc si on reste prisonnier de ce modèle, je pense qu'on ne comprend pas déjà l'essor de la mondialisation et on ne peut pas comprendre les géopolitiques modernes.
C'est ce que vous indiquez. Ensuite, les petites puissances, comme acteurs géopolitiques, ont un comportement prévisible.
Oui, tout à fait. Ce sont des acteurs géopolitiques. Directement ou indirectement, on en parlait tout à l'heure, indirectement parce que bah, Taïwan ne l'a peut-être pas choisi, mais toujours est-il que ça peut être l'acteur qui amène deux superpuissances à s'affronter. Donc, de par cela, c'est un acteur géopolitique ou directement. On en a parlé pour Singapour, on en a parlé pour le Qatar, on en parle pour l'Ukraine. Bah, ces petits États, ils peuvent agir. Ils peuvent avoir une influence et ils peuvent nous apprendre des choses. Donc, ce sont des acteurs géopolitiques et je pense qu'il faut les considérer comme tels.
Et certains de ces petits États sont détenteurs de produits aujourd'hui absolument nécessaires pour fabriquer les composants, pour dans tout ce qui est l'industrie microélectronique. Et comment ces États ne sont pas empêchés de conserver leurs produits, leurs ressources, et à pouvoir les développer?
Alors, je pense qu'il
Quelques géants, je pense à Total parce qu'il est bien connu, a longtemps été acteur dans le domaine du pétrole, où il a étouffé les pays qui étaient détenteurs de ses richesses uniquement pour son profit, et sans que ces richesses soient partagées avec les populations des pays qui étaient les possédants. Et on voit se produire le même mécanisme, et avec parfois des États qui résistent.
Oui, je pense que là, encore une fois, on touche à eh bien, l'essor fondamental et le moment qu'a été la mondialisation. La financiarisation des échanges, la libéralisation, la délocalisation ont fait que on est passé en termes économiques d'une logique territoriale pure à une logique de rentabilité pure. Et cette rentabilité pure, elle a donc donné la possibilité à des petits d'être les dépositaires eh bien, de l'industrie, de la production. Et donc, tant que vous êtes dans un marché qui est à votre avantage de très grande puissance parce que le monde n'a pas de conflit et vous produisez de l'argent, ça ne pose pas de problème. Par contre, le jour où, en effet, il y a une raréfaction des ressources, où là, vous rentrez dans une logique de confrontation, eh bien, donc, du coup, vous avez créé une chaîne d'interdépendance et de dépendance à l'inverse, où oui, la petite puissance est peut-être dépendante de vos finances, mais vous êtes dépendant du fait qu'aujourd'hui, c'est elle qui a l'usine, c'est elle qui produit le semi-conducteur. Et donc, vous avez eu une dispersion de l'économie qui, dans un premier temps, n'a pas été vue forcément comme négative pour les grandes puissances, mais qui aujourd'hui a créé des interdépendances. Et donc, qui fait que il est difficile aujourd'hui de contraindre ou d'enlever sans rentrer dans une logique coercitive. Et donc, il faudrait envahir tous les États qui sont dans les chaînes de dépendance. Et on voit bien que c'est compliqué et que ça ne se passe pas comme ça. Donc, je pense que l'événement pivot, c'est bien cet événement qui a été la mondialisation, où en fait, vous insérez dans l'économie et dans des chaînes de dépendance réciproques, pour une fois dans l'histoire, eh bien, l'ensemble des États et l'ensemble des acteurs. Eh bien, une fois que vous avez créé une dépendance réciproque, de fait, vous avez délégué une partie de votre puissance.
Vous poursuivez en indiquant la géopolitique contemporaine, une géopolitique des petites puissances, et poursuivez la géopolitique de l'Afrique est tout autant structurée par les petites puissances.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que on pense que la puissance, c'est un rapport uniquement bénéficiaire, c'est-à-dire que je suis puissant, donc eh bien je suis une grande puissance, je décide. Mais en réalité, la petite puissance, soit elle a une influence, on en a beaucoup parlé, donc je reviens pas dessus, soit le simple fait qu'elle soit petite peut amener des désordres qui structurent un modèle géopolitique. Et on le voit très bien en Afrique. Vous avez les deux cas. Vous avez des petites puissances qui ont pris un rôle déterminant, comme un peu l'État caserne qu'est le Tchad. Parce que c'est la seule armée qui tient à peu près la route dans la région, eh bien, elle a acquis une influence et un partenaire incontournable pour tous les Occidentaux au niveau militaire. Et d'un autre côté, beaucoup d'autres États, par le simple fait qu'ils soient des petites puissances, mais qu'ils en souffrent, par leur instabilité, ont une influence géopolitique. Ils structurent le continent parce qu'ils sont en proie au djihadisme, ils structurent le continent parce qu'ils sont en proie à des guerres civiles ou à des guerres interétatiques. Et donc, modèle le continent, mais modèle aussi l'intervention des grands États. La faillite du Mali fait intervenir la France, implique Barkhane et tout ce qui s'ensuit. La problématique du Soudan, eh bien, modifie la géopolitique de la région, etc., etc. Donc, bien entendu, c'est pour ça que je pense que la vision relative de la puissance est très importante et surtout qu'on doit parler des petites puissances. Dans le côté positif, parce que ces petits acteurs peuvent agir, devenir puissants et nous apprendre certaines choses, mais aussi du côté négatif, par le simple fait qu'ils soient petits, donc incapables parfois de maîtriser leur étranger, leurs problématiques, ils créent un désordre régional, voire mondial, qui implique des réactions, y compris pour les superpuissances. Le cas le plus emblématique, c'est certainement le cas du Moyen-Orient, où la superpuissance américaine, voire l'hyperpuissance à un temps, a toujours été au Moyen-Orient vis-à-vis de la problématique israélienne, du monde arabe. Là, on le voit vis-à-vis, c'est même pas interétatique, c'est une organisation proto-étatique qu'est le Hamas, vis-à-vis d'un État, et pourtant ça implique les Européens, le monde entier à prendre position, et les États-Unis. Donc voilà, les petites puissances, pour moi, quel que soit le continent, volontairement ou involontairement, de toute façon, vont structurer la dynamique géopolitique.
On observe la même chose en Amérique du Sud, avec des flux commerciaux souvent liés au trafic de drogue.
Oui, tout à fait. Et quand on voit la problématique qu'a posé dans les relations ou qu'a posé le Venezuela avec, avec les États-Unis, la problématique de la pacification du Mexique. Et puis bon, alors on oublie bien vite parce que maintenant c'est un peu du passé, mais la logique et l'épicentre qui a été Cuba, alors dans les années 60, mais même après, quand ils intervenaient en Angola, etc., font que même sur un continent qui aujourd'hui semble assez pacifié, loin des préoccupations mondiales, en réalité pose des vraies questions et est largement structuré par les problématiques et les enjeux des petites puissances.
Et en Asie, alors, à part Taïwan dont on a parlé, il y a plein aussi, il y a de nombreuses petites puissances également.
Oui, et qui sont là aussi structurantes dans les enjeux. Il suffit de voir ces derniers jours les tensions entre les Philippines et la Chine pour voir qu'une toute petite puissance, si on la compare à l'ogre chinois, peut amener à un embrasement, peut amener les grandes puissances à se positionner, peut amener une problématique structurante, par exemple, s'il y avait conflit dans les flux mondiaux, dans le détroit de Malacca, faire intervenir ou pas les Américains et les alliés des Philippines. On a les mêmes problématiques sur les débats territoriaux et notamment des zones maritimes entre le Vietnam et la Chine. On a même des problématiques internes eh bien, entre le Vietnam et les Philippines, etc. Donc, et que dire du cas de la Corée du Nord, qui fondamentalement, malgré sa possession de l'arme nucléaire, est quand même relativement une petite puissance si on la compare à l'essor économique de la Corée du Sud, du Japon, etc. Pourtant, elle a été structurante ces dernières décennies par rapport au nucléaire, par rapport à la menace sur la Corée du Sud. Donc on voit bien que aucun continent n'est épargné par l'importance des petites puissances.
Il nous reste 2 minutes que vous pouvez utiliser pour aborder le sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble.
Alors, je pense qu'il est quand même important, et c'est la dernière partie du livre, de pointer les limites structurelles des petites puissances. On a beaucoup parlé de, elles sont efficaces, elles développent des avantages comparatifs. C'est le cas. On a réellement, eh bien, l'essor des petites puissances avec la mondialisation. Toujours est-il que si on parle de petites puissances, c'est bien qu'elles demeurent petites. Et c'est les limites structurelles fondamentales. C'est-à-dire qu'une petite puissance, malgré tous ses efforts, elle restera toujours limitée par sa population, par son poids économique, par son poids militaire. Et pour une raison simple, et on retourne, et ce sera mon mot de conclusion, à la logique relative de la puissance. Si à un moment une petite puissance devient suffisamment forte et grande, comme la Prusse qui devient l'Empire allemand, pour être un hégémon régional, alors c'est qu'elle n'est plus une petite puissance, mais qu'elle est devenue une grande puissance. Et ça veut donc dire qu'on a eu une transformation du contexte géopolitique. Donc finalement, la boucle est bouclée, c'est la géopolitique des petites puissances, parce qu'on est une petite puissance vis-à-vis d'un contexte. Et si le contexte évolue, peut-être qu'on ne sera plus une petite puissance, mais en tout cas, tant qu'il restera comme il est, on pourra développer sa puissance, mais on restera une petite puissance.
Merci Thibault Fouillet. Je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique des petites puissances, qui est publié par La Découverte au mois de mai 2024. Merci, à bientôt. Thank you.